Et un sujet post-Saint-Valentin donc cet après-midi pour comprendre le phénomène du coup de foudre, cette attirance physique et émotionnelle soudaine qui transporte les deux personnes qui en sont victimes dans un monde quasi parallèle. À l'âge de 60 ans, le pharaon Ramsès II tombait amoureux au premier regard d'une jeune princesse. Ce fait historique serait le premier coup de foudre attesté et le coup de foudre qui ne semble pas avoir beaucoup varié d'ailleurs au cours des âges. On va en parler avec mes invités dans un instant. Dossier pour comprendre l'histoire et la chimie de la passion amoureuse avec vos messages franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science cet après-midi, la science en marche pour soutenir justement les Américains.
Oui, face à la montée du déni de science aux États-Unis et pour une prise en compte des résultats scientifiques dans les choix politiques, un collectif de Français appelle tous les citoyens dans les rues le 12 avril pour affirmer que
Le
22 avril exactement, pour affirmer que la science compte. Et on en discute avec deux instigatrices du mouvement.
Et puis comme tous les mercredis, nous retrouvons la science grand format avec un nouveau doc de France 5. Céline Hillard réalise cette tête au carré qui a été préparée par Lucie Sarfati avec Pierre de Certaine.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et le coup de foudre, ce sera donc le thème de notre dossier dans un instant avec mes invités, l'écrivain Jean-Claude Bologne et le neurobiologiste Bernard Sablonnière. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Jean-Claude Bologne, depuis Ramsès II ou Tristan et les autres, le coup de foudre n'a pas vraiment changé de forme au fond ?
De forme, probablement pas. D'explication, oui, beaucoup.
Oui, et vous avez de nouvelles choses à nous dire donc à ce sujet ?
Et ben j'espère que j'ai pas mal de choses à vous dire. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, on a invoqué des explications surnaturelles, rationnelles, ouais. Chimiques, physiques.
Ouais. Alors la science, justement, on fera appel à elle avec vous, Bernard Sablonnière. Le coup de foudre, c'est une question de quoi ? De corps, de chimie, justement ?
Ah, c'est un véritable orage électrique. Et puis il y a aussi des clés chimiques qui préparent ce comportement quand même très spécial, qui vise absolument à entrer en relation avec l'autre.
Oui. On va en parler dans un instant et on verra le rôle du regard, hein, extrêmement important dans ces rencontres avec les messages et certainement les témoignages des auditeurs qui nous rejoignent dès maintenant sur le site de l'émission. Marchons le 22 avril pour signifier l'immense danger que représente la mise au pas des sciences. Voici le titre d'une tribune qui paraît aujourd'hui dans les colonnes du Monde. Une alerte lancée par des scientifiques français en écho à la menace justement qui pèse sur les sciences aux États-Unis.
Nous prenons des décisions scientifiques à partir de faits, pas d'idéologie. C'est pourquoi aujourd'hui je signe un mémorandum présidentiel adressé à la direction du Bureau de la politique scientifique et technique afin de développer une stratégie pour restaurer l'intégrité scientifique des décisions prises par le gouvernement.
Et la voix de Barack Obama, lorsqu'il arrive pour la première fois à la Maison Blanche en 2009, face à la censure et au déni de science que vivent en ce moment justement les scientifiques américains de la part de l'administration Trump, eh bien les scientifiques français se regroupent d'ailleurs comme partout dans le monde. Ils ont décidé de prévenir plutôt que de guérir et ils appellent donc à une marche dans les grandes villes de notre pays le 22 avril, veille d'ailleurs du premier tour des élections présidentielles. Bonjour Emmanuel Pérez-Tisserand. Vous êtes historienne des États-Unis, maîtresse de conférences à l'Université de Toulouse et puis par téléphone avec nous, Iser Etchevers, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes franco-américaine, chercheur à l'INSERM de Marseille et vous êtes avec d'autres confrères à l'initiative justement de ce mouvement Marche pour la science en France. Emmanuel Pérez-Tisserand, les chercheurs français donc soutiennent leurs confrères américains ?
Absolument, on voulait marquer notre solidarité et puis comme vous l'avez dit, on n'est pas dans cette situation-là encore en France, mais on veut rappeler l'importance des sciences pour le débat démocratique, pour la prise de décision, rappeler que il y a des recherches qui sont faites et qu'elles peuvent aider à la décision scientifique, à la décision politique, à la conception de politique publique, et que c'est important d'écouter les chercheurs et de leur donner les moyens de chercher.
Iser et Etchevers, le 22 avril prochain, les scientifiques américains marcheront dans leur pays, dans les grandes villes. Expliquez-nous ce qui est en train de se passer dans le monde de la recherche aux États-Unis en ce moment.
Aux États-Unis, nous avons très peur que la science ne puisse pas rester indépendante et nous avons déjà constaté que l'expertise de la communauté scientifique n'est plus reconnue ni respectée. Nous avons déjà vécu les années Bush pour s'apercevoir quel est le résultat de l'immiscement de la politique dans la façon de conduire les sciences, que ce soit par les financements publics ou autres. Et donc nous marchons aux États-Unis et partout dans le monde pour que la liberté des choix des sujets d'investigation reste totale.
Il y a déjà des mesures visibles dans les laboratoires fédéraux aux États-Unis ?
Absolument. Nous avons... et la crainte et le vécu de divers problèmes qui se font au niveau de la suppression des informations scientifiques au niveau des rapports pour les agences fédérales. Et puis, des effets d'annonce pour faire taire des scientifiques qui sont soutenus par les financements publics et les limitations d'accès public aux informations qui ont été rassemblées par l'État pour le bien de tous les citoyens, mais qui disparaissent petit à petit des serveurs et des sites web.
Emmanuel Pérez, est-ce que tous les domaines des sciences sont concernés? On parle beaucoup des climatologues, des scientifiques qui travaillent sur l'énergie, mais est-ce qu'on peut élargir cette démarche?
Ah oui, absolument. On parle beaucoup du changement climatique et des recherches sur le climat. Mais il est aussi question de supprimer le soutien public, le financement public pour les humanités aux États-Unis. La dimension de refus des faits avérés, donc ce qu'on appelle les alternative facts par Donald Trump, montre bien que c'est toute la méthode scientifique, qu'elle concerne les sciences dites dures, expérimentales, de la nature, mais aussi les sciences humaines et sociales, les sciences de la société, qui sont refusées, réfutées au profit d'une idéologie. Et on peut le voir avec le décret anti-immigration pris par Trump, où il n'y a aucun soubassement scientifique, puisque les pays dont sont originaires les ressortissants n'ont rien à voir avec le terrorisme. Tout le monde est visé.
Iser Etchevert, vous travaillez donc en France depuis maintenant plusieurs années. Quel est le climat, en tout cas auprès de vos confrères et compatriotes en ce moment, que vous avez en ligne, j'imagine, avec lesquels vous échangez régulièrement? Quel est le sentiment là qui prédomine aux États-Unis?
Le sentiment vraiment prédominant, c'est la peur et la crainte et l'inquiétude. On se demande si on va pouvoir continuer à travailler. Beaucoup de confrères et penseurs, si ça se dit, ils se demandent s'ils vont pas aller ailleurs. Ils cherchent à l'étranger, ils regardent beaucoup vers le Canada, vers l'Angleterre, pour voir où ils vont pouvoir continuer à travailler.
Pas vers la France?
Bon, peut-être pour les francophones, oui. Il y a la barrière de la langue, déjà.
Ouais. Dans la tribune que vous publiez dans les colonnes du Monde, Emmanuel Pérez, vous dites « On n'en est pas là en France pour le moment », je paraphrase, mais les motifs d'inquiétude n'en sont pas moins nombreux. Vous pensez à quoi?
Alors, on en parle dans la tribune, mais voilà, on peut penser, pour ce qui est de la sociologie, de la sortie de notre ancien Premier ministre et candidat aux élections présidentielles, de la primaire, Manuel Valls, qui avait dit expliquer, c'est excuser, ce qui est une incompréhension de la méthode de la sociologie. On peut penser aussi à d'autres candidats qui remettent en cause le rôle de l'homme dans le réchauffement climatique. Donc, ces idées, elles sont formulées et elles peuvent avoir des conséquences dans les politiques qui sont pratiquées une fois élues. Donc, on a des raisons d'être inquiets. Par ailleurs, on parlait d'indépendance et de moyens. Il y a une telle précarité et des telles difficultés au sein de l'université et de la recherche française que est-ce qu'on a les moyens de cette indépendance et de cette recherche et d'obtenir ces résultats qui sont nécessaires?
Ouais. Vous craignez aussi le développement de ces faits alternatifs en France?
Oui, je pense qu'on est
de cette notion, en tout cas.
Oui, je pense qu'on est, elle est tout à fait susceptible d'arriver. Et on voit souvent, d'ailleurs, des déclarations politiques qui ne s'appuient pas sur les faits, sur nos résultats. Et d'ailleurs, c'est assez désespérant dans la communauté scientifique quand on voit des affirmations ou des rapports commandés, alors que le travail a déjà été fait dans la communauté scientifique.
Le 22 avril, c'est la veille du premier tour de notre élection présidentielle. Vous avez un message à faire passer aux candidats, en particulier ce jour-là?
Nous, on veut instaurer un dialogue, en fait. On veut que les scientifiques soient écoutés et qu'ils aient les moyens d'être écoutés. Et c'est cette marche, on veut en faire un moment de dialogue avec les citoyens, avec les décideurs politiques, avec l'administration. Une main tendue.
Vous sentez le soutien déjà assez exceptionnel, hein, puisque vous avez mis en place un compte Twitter, une page Facebook, et très très rapidement, en fait, vous avez été soutenu, et pas seulement par des scientifiques, hein, c'est toute la population qui aussi se sent concernée par l'état de la science.
Oui, tout à fait. Et au-delà du soutien, en fait, je voudrais quand même rappeler que cette initiative, elle est très décentralisée. C'est-à-dire que c'est un certain nombre d'entre nous qui avons créé le compte Twitter, créé les pages Facebook. On est le collectif qui avons fait la tribune ensemble, mais bien sûr, un grand nombre d'acteurs se sentent concernés et veulent marcher. Et donc, je vous appelle à vous inscrire sur le formulaire du site web marchepourlesciences.fr et de regarder la carte des villes concernées. Et
bien sûr,
on invite aussi d'autres participants, d'autres volontaires pour qu'on soit le plus nombreux dans la rue et qu'on puisse se parler et manifester.
Une dernière question, Iser Etchevert. Globalement, vous pensez que la science et les résultats scientifiques ne comptent pas assez dans la politique ?
Oh, absolument. Ce qu'on craint, c'est que l'expertise scientifique ne soit plus reconnue comme étant une expertise à part entière qui a été gagnée à coup de travail réel. Et que si les opinions des uns pèsent autant que l'expertise des autres, après, les décisions ne peuvent pas être rationnelles après. Donc, on aimerait bien que les scientifiques puissent s'impliquer de plus en plus dans le processus politique et que les politiques professionnelles, ils écoutent les scientifiques pour aider à leur prise de décision.
Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Merci à tous les scientifiques donc qui sont derrière ce collectif. Donc on note, on bloque cette date déjà dans nos agendas, hein, celle du samedi 22 avril, avant le premier tour de l'élection présidentielle en France, pour descendre dans la rue, puis on verra effectivement la carte. Et puis ce site, donc compte Twitter, vous rappelez l'adresse?
Oui, sciencemarch.fr. Ouais. Et marchepourlesciences.fr.
Voilà, sciencemarche.fr et puis ce compte Twitter donc pour la France. Merci beaucoup, merci à vous Heather Etchevers. Merci infiniment Axel et à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, traversée au feu rouge, une question sociale, une étude menée par le CNRS et les universités de Strasbourg et de Kyoto se sont intéressées à la tendance à traverser les passages piétons dans les deux pays. En règle générale, les piétons hésiteraient plus à causer une infraction en présence de témoins. En comparant justement les deux pays, les chercheurs ont constaté que 42% des Français n'hésitent pas à traverser au feu rouge contre seulement 2% des Japonais. Selon eux, cette disparité serait due à la différence de pression sociale dans les deux pays. Les petits coups de stress peuvent être bénéfiques. Dans une étude publiée dans Nature Communication, des scientifiques américains montrent que des contraintes temporaires sur un organisme améliorent l'autophagie, ce processus cellulaire qui transforme des cellules endommagées ou inutiles en d'autres molécules ou en énergie. Or, l'autophagie serait impliquée dans l'espérance de vie et la résistance au stress des individus. Ainsi, de petits stress temporaires renforceraient notre organisme. Et puis pour terminer, un concours science et humour organisé par la Société française de physique. Ce concours d'images s'adresse à l'ensemble des scientifiques amateurs ou chevronnés et vise à valoriser l'aspect ludique et dynamique de la démarche scientifique. Les meilleures photos, BD ou dessins seront publiées dans le magazine Science et Avenir. D'autres revues scientifiques et des prix seront également prévus pour les lauréats. Si vous souhaitez y participer, les modalités du concours sont à retrouver sur le site sfp2017.fr. Il est en lien sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, coup de foudre dans un instant.
Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. Mas o amor sabe segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Te batunda, bate lá da badaba, te batunda, bate lá da badaba, te batunda. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abre todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber. Bebê camarada, te batunda, bate lá da badaba, te batunda, bate lá da badaba, te batunda.
Et la voix d'Astrid Gilberto.
La tête.
Connais-toi toi-même, disait le sage.
Carré.
La meilleure façon de se connaître est d'abord de connaître son cerveau.
J'étends ma main, je marche, je parle.
Sur France Inter.
Et le coup de foudre dans notre dossier donc cet après-midi avec mes invités Jean-Claude Bologne et Bernard Sablonnière. Jean-Claude Bologne, vous êtes écrivain et philologue et vous publiez Histoire du coup de foudre chez Albin Michel. Bernard Sablonnière, vous êtes neurobiologiste, professeur de biochimie et de biologie moléculaire à la faculté de médecine de Lille et vous avez publié l'année dernière chez Odile Jacob Les nouveaux territoires du cerveau et puis également La chimie des sentiments qui est sortie en poche toujours chez Odile Jacob avec les auditeurs qui nous rejoignent, les questions et certainement les témoignages autour du coup de foudre. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque pour les réseaux. Jean-Claude Bologne, vous qui êtes un spécialiste donc du langage à partir des documents écrits, il y a de très nombreux récits qui témoignent du coup de foudre dans la littérature, dans les récits en général.
Alors, les récits sont nombreux, bien entendu, avant l'apparition de l'expression en 1741, ce sont d'autres termes qui désignent le coup de foudre, l'amour immédiat ou simplement les flèches de Cupidon, mais les récits sont extrêmement nombreux depuis l'Antiquité. Ils concernent surtout au départ les hauts personnages, parce qu'on a
les traces,
les mémoires de gens du peuple qu'à partir du 17e, 18e siècle, mais dès qu'on commence à avoir des traces un peu plus populaires, je dirais, le récit d'un coup de foudre fait partie des autobiographies assez fréquemment. Ouais,
donc vous avez une masse de documents finalement à votre disposition.
Il y a une assez grande masse. Alors il y a une très grande masse littéraire parce que c'est un thème littéraire absolument fantastique depuis la plus haute antiquité, depuis l'Antiquité grecque. Il y a des traces d'explications. Et j'ai beaucoup travaillé sur les récits moralistes, les philosophes, les théologiens, etc., les médecins, le cas échéant. Et il y a pas mal de traces d'historiens. Alors le gros problème, c'est que pour les personnages d'une certaine importance, les témoignages de coups de foudre sont très largement postérieurs. C'est-à-dire que un roi qui tombe amoureux, il n'écrit pas ses mémoires. Et c'est parfois 2 siècles, 3 siècles, 10 siècles plus tard qu'on transforme tout cela en coup de foudre. Et c'est un processus qui m'a aussi intéressé.
C'est vrai, absolument. Alors qu'est-ce qui se passe justement quand on tombe amoureux, on laisse tomber sa plume?
Mais il n'y a pas de... Le coup de foudre échappe au temps, par définition, et on ne peut jamais, même pour soi-même, même si on l'écrit dans les 5 minutes qui suivent, en avoir le mémoire, donc la mémoire, et donc le reconstruire, et on le reconstruit selon les critères de son temps. Alors, si l'on croit à un petit dieu archer, on dira j'ai été frappé par la flèche de Cupidon. Pétrarque ne dit pas autre chose, même si il ne peut plus croire à l'existence physique de ce dieu, mais il compare son coup de foudre avec l'or aux flèches de Cupidon et il en tient une note scrupuleuse dans un de ses livres. Mais ce sont toujours des témoignages reconstruits.
Bernard Sablonnière, depuis quand les scientifiques s'intéressent sérieusement, évidemment, à cette question du coup de foudre, au point d'avoir des choses à nous dire sur même sa chimie, par exemple, c'est ce qu'on verra avec vous?
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs étapes. D'abord, les neurobiologistes se sont attachés à comprendre les mécanismes de l'attachement chez les mammifères. Il y a eu, bien sûr, les hormones, l'action des hormones, des clés chimiques dans le cerveau. Et puis après, depuis une trentaine d'années, c'est quand même la grande époque de l'imagerie. Et actuellement, on a des progrès remarquables parce qu'on arrive vraiment à voir quelles sont les régions du cerveau qui s'activent pour des étapes extrêmement détaillées du coup de foudre et de la passion amoureuse.
Oui, mais enfin c'est quand même difficile d'avoir des cobayes qui sont victimes d'un coup de foudre devant un scanner, par exemple, non?
Oui, mais un certain nombre de neurobiologistes utilisent des tests indirects où on va essayer de détecter les émotions des gens en leur montrant des visages qu'ils connaissent, des visages de personnes avec lesquelles ils sont en couple ou pour lesquelles ils ont des sentiments amoureux, par rapport à des visages neutres ou d'autres visages. Oui. Et on arrive quand même à avoir des interprétations assez fines.
Oui, parce que voir un coup de foudre, par exemple à l'IRM, ce serait extraordinaire, non?
Ce serait extraordinaire, oui.
Parce que vous parlez de cascade d'événements en tout genre, et là, vraiment, on pourrait en voir l'image. Mais vous avez quand même des moyens de pouvoir en déduire certaines choses. On va écouter un document de France Culture qui date de 2004, avec le psychiatre Édouard Zarifian, et qui nous parle justement d'un texte autour du coup de foudre.
Je ne peux pas m'empêcher de vous lire... Ces 4 vers dans Phèdre de Racine, le coup de foudre. Quand elle voit Hippolyte, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étranger et brûler. Alors, qu'il y ait de la biologie là-dedans, je suis bien d'accord. Mais c'est parce que c'était Hippolyte et c'est parce que c'était Phèdre. ne confondons pas le comment et le pourquoi. Alors aujourd'hui, on assiste à la biologie, à la conquête de la philosophie, à la conquête de l'art. La biologie devrait rester exclusivement à la conquête de l'homme en tant qu'objet biologique, parce que ce qui est humain dans l'homme, c'est pas abordable par la biologie. Mais... on est NAIT homme, on est dans l'espèce humaine, et on devient humain si on a la chance de faire des rencontres, d'avoir des échanges intersubjectifs. On devient humain et même on devient plus ou moins humain parce qu'il y a des gens qui sont franchement inhumains.
Alors voilà de quoi commenter pour vous deux. On va commencer avec vous, Jean-Claude Bologne, Phèdre et Hippolyte, un magnifique texte hein, sur
oui,
le coup de foudre.
Bien sûr, et ça reste un des textes littéraires les plus connus, les plus cités sur le coup de foudre. Ce qui m'intéresse là-dedans par rapport à notre conversation précédente, je le vis, je pâlis, je rougis, je pâlis à sa vue, c'est exactement ce que décrit Sappho, 7 siècles avant notre ère,
les effets physiologiques,
et notamment cette succession de sentiments contradictoires, de manifestations contradictoires. Je rougis, je pâlis, à tel point que certains médecins grecs, paraît-il, ont décrit ce qu'ils appelaient le syndrome de Sappho pour reconnaître l'état amoureux chez leurs patients, parce que la maladie d'amour est connue depuis l'Antiquité grecque, sinon l'Antiquité égyptienne. Et donc, le syndrome de pâlir, rougir, les tremblements, la voix qui se bloque, etc., le pouls qui s'accélère, tout ça est décrit depuis la plus haute Antiquité. Et lorsque vous dites, effectivement, la science a les moyens de voir le coup de foudre, décrit le coup de foudre depuis une trentaine d'années, mais depuis toujours, il y a une démarche scientifique.
C'est ça.
Et c'est cette démarche scientifique qui m'intéressait également.
Et vous la voyez vraiment à toute époque, hein?
Et on la voit à toute époque. Là, je vous ai parlé de Sappho, mais on parlait tout à l'heure de ce cocktail d'hormones, de phéromones, et ça me fait immédiatement penser à une théorie qui date des années 1740, 18e siècle, où on parlait de matière sympathique, c'est-à-dire une matière impalpable qui se dégage du corps des jeunes gens quand ils tombent amoureux d'une jeune femme et qui va se transmettre aux jeunes femmes. C'est une description des phéromones de 200 ans avant la découverte.
Et un an avant l'apparition de l'expression coup de foudre, hein, puisque c'était 1741, vous
voilà,
le disiez.
41 l'expression et 48 pour Tiffany Garage.
Absolument. Alors Bernard Salbonnier, passionnant là pour le neurobiologiste. Parce
je rougis, je pâlis, ça s'explique très bien. Hein. Au début du coup de foudre, c'est le stress. Donc le cerveau commence déjà à libérer la noradrénaline. Et la noradrénaline, comme dans tout stress, peut avoir des effets opposés, puisque certains récepteurs, notamment dans la peau ou dans les vaisseaux sanguins, s'expriment de façon différente selon les individus. Vous avez des individus face à une peur panique qui peuvent devenir complètement livides, et d'autres au contraire qui vont avoir une vasodilatation. Donc ça, on explique. Alors pourquoi il y a du stress au début ? Mais c'est la néophobie, c'est la peur d'entrer en relation avec l'autre, parce que l'organisme doit quand même se protéger, on ne sait jamais. Et très vite après, il y aura libération de dopamine qui va dire « il faut y aller, c'est motivé, c'est la vigueur d'entrer dans la relation ». Et on en parlera peut-être après, ce qui est très bien fait dans le cerveau humain et très bien documenté maintenant, c'est que très rapidement, pour éviter qu'on soit au stade un peu rugueux du désir violent, il y a l'ocytocine qui est libérée et qui force tout ça à se relâcher, à se calmer, et qui fait que la relation devient agréable.
Et au niveau du cœur, alors qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on est quand même dans le domaine de l'amour, mais au niveau de l'organe justement cardiaque.
Le stress, c'est évidemment la noradrénaline va augmenter les battements cardiaques, va augmenter la pression artérielle, au cas où il faudrait fuir. C'est stressant d'entrer en relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Ouais. Donc il y a une espèce de réaction de survie au fond dans le coup de foudre.
Absolument,
aussi.
Tout au moins au début.
Un état d'urgence.
Un état d'urgence.
Mais très rapide.
Très rapide, mais il va être dominé par la dopamine. Et la dopamine, c'est vraiment le désir que la relation se déroule correctement. Parce que si tous les coups de foudre échouaient au bout de 2 minutes...
Oui, Jean-Claude Bologne. On retrouve ça aussi dans les témoignages, cet état d'urgence, alors l'évocation de...
Bien sûr, dans coup de foudre, il y a coup, c'est violent, et foudre, c'est dangereux. Là, nous sommes trois, nous ne nous connaissons pas, nous n'avons pas tout à coup eu un stress épouvantable.
Il n'y a pas eu coup de foudre, il y a eu une amitié, certes.
Voilà, mais il y a cette notion de mise en danger qui apparaît à toutes les époques dans le coup de foudre, parce qu'on sent qu'on va rompre quelque chose de solide, une des relations sociales qui vont changer sous l'effet d'on ne sait pas quoi, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ouais. Or, je vous rappelle que jusqu'à la réintroduction du divorce par consentement mutuel, il y a une trentaine d'années, le mariage était indissoluble. Donc, ouais. Un mariage que l'on fonde sur un coup de foudre peut être fragilisé et peut entraîner effectivement une crainte. Les mariages jusqu'au 19e siècle, et parfois même bien au-delà, sont arrangés par les parents, par des marieurs. Le rôle des jeunes gens et le coup de foudre qu'ils peuvent ressentir va c'est ça. À l'encontre de stratégies
matrimoniales. La passion n'est pas très bien vue, au fond. Hein.
Voilà. En tout cas, elle est dangereuse. Ouais. Elle peut aider, mais elle est dangereuse, surtout avant le mariage et, bien entendu, en dehors du mariage, dans l'adultère.
Ouais. Sébastien Parmel demande quelle différence chimique, justement, dans notre cerveau entre un coup de foudre et tomber amoureux normalement. Alors, si on peut parler d'une norme dans le fait de tomber amoureux, mais...
Alors, bon, le désir amoureux met en jeu... chez tout le monde, c'est que les chimiques, hein, donc après le stress, c'est la dopamine. Mmh. Le problème, c'est que la projection, l'efficacité de la dopamine sur le fameux circuit dans le cerveau qui s'appelle le circuit désir-plaisir ou désir-récompense, eh bien, il est plus ou moins stimulé et plus ou moins régulé selon les individus. Mmh. Donc, vous avez des individus, je dirais, le coup de foudre a une violence moyenne. Et donc, il va se réguler assez vite. Il va devenir finalement assez supportable. Et puis, chez d'autres, ça devient véritablement un trouble obsessionnel. Et on sait comment ça fonctionne dans le cerveau à ce moment-là.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre la discussion. Beaucoup de messages pour vous. Franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Le temps d'écouter nos rabat-joie de service. Voici La Femme avec Elle ne t'aime pas. T'aime pas la femme et Thierry Dupin pour la programmation musicale de cette Tête au Carré.
La Tête au Carré, Mathieu Vidard.
Ah, je peux avoir votre prénom?
Putain, c'est pas compliqué, merde, je suis con quoi. Benjamin, c'est pas dur.
Ok, pardon, je vous ai pas laissé votre chance.
Pas toujours facile, le coup de foudre. Jean-Claude Bologne avec ce livre, Histoire du coup de foudre chez Albin Michel. Et puis Bernard Sablonnière, neurobiologiste et les nouveaux territoires du cerveau chez Odile Jacob. Vous dites à quel point, Jean-Claude Bologne, le premier regard est important. Là aussi, les témoignages vraiment se recoupent?
Oui, la quasi-totalité des coups de foudre attestés historiquement parlent de regard. Il n'y a pas que cela. Il y a parfois d'autres coups de foudre, essentiellement auditifs. Mais c'est quasi uniquement le regard. À tel point que dans d'autres langues, en anglais, c'est le love at first sight, l'amour au premier regard. Ouais. Ce qui est intéressant dans le regard, c'est qu'il s'adapte à toutes les théories. Si vous croyez à Cupidon, vous avez la flèche du regard qui part de l'arc du sourcil.
Ah oui, c'est pratique. Oui.
C'est pratique. Mm-hmm. Si vous croyez à l'amour magnétique, il y a ce magnétisme du regard. Et si vous croyez au coup de foudre mystique, il y a toute une théorie de la hiérarchie des sens qui fait que le regard est le sens le plus noble parce qu'on voit de très loin. Ensuite, l'audition, parce qu'on entend d'un petit peu moins loin. Puis, l'odorat, parce qu'on doit être assez près. Et puis, les sens qui sont tout à fait méprisés, le goût, le toucher, qui demandent le contact. Et c'est le trajet que fait le coup de foudre et l'amour chez Roméo et Juliette. Ouais. Ils commencent par se voir au bal, puis ils s'entendent, la scène du balcon, puis le baiser qu'on va cueillir, et puis ça finit dans la chambre à coucher. Donc, il y a une sorte de hiérarchie qu'ils dégringolent.
C'est ça.
Ils sont sauvés parce qu'ils se sont mariés, c'est autre chose. Mais le coup de foudre, théoriquement, doit remonter l'échelle des sens. Et donc, au-dessus du regard, on doit aller au sens intérieur. Je parle des théories aristotéliciennes et puis chrétiennes. Au sens intérieur, donc la compréhension, le désir, la mémoire et la volonté qui doit triompher de tout.
Ouais, la place du contact, au fond, elle est peu présente dans le coup de foudre, alors.
Elle est rarement présente. Ouais. En tout cas, dans le déclenchement, il y a un exemple qui est un exemple littéraire qui est assez célèbre, dans La peau de chagrin de Balzac, c'est avec ce personnage, voit la peau de chagrin diminuer, et donc sa vie diminuer à chaque désir, et donc il refuse de voir de jolies femmes pour ne pas les désirer. Mais évidemment, un froufrou de vêtements et une chevelure qui le touche, un parfum, vont le rendre amoureux. Mais c'est exceptionnel en dehors du regard.
Bernard Sablonnière, sur cette communication qui a lieu au moment du coup de foudre.
Oui, tout à fait. Il faut savoir que chez les hominidés, après l'apparition de la station bipède, c'est effectivement la vision qui s'est fortement développée. L'homme a acquis une profondeur de champ dans la capacité visuelle qui était incroyable, ce qui lui permettait d'aller à la chasse de façon efficace. Donc c'est resté évidemment parce que le choix du partenaire, c'est très important pour se reproduire. Hein, si on se rappelle ce qui s'est passé il y a des milliers d'années, et ces sens-là sont restés. Alors effectivement, il faut savoir qu'au début, du fait de cet effet de stress, la noradrénaline stimule les perceptions sensorielles, notamment la vision. Elle joue aussi sur la mémoire. Et c'est vrai que dans un deuxième temps, ça sera qu'un peu plus tard, comme vous disiez, que le sens du toucher, de la gustation, va devenir plus aigu, notamment grâce à l'action de l'ocytocine. Donc c'est bien fait dans cet ordre-là, biologiquement.
Oui, parce que c'est vrai que l'arrivée au contact, effectivement, et au goût, c'est l'étape suivante.
On est dans l'intimité, c'est après.
Évidemment. Oui. Étienne nous dit ceci, on évoque très souvent le regard, justement, dans le coup de foudre, mais qu'en est-il pour les personnes aveugles? Ont-ils moins de chances de vivre ce phénomène? Il y a des textes là-dessus, justement, Jean-Claude Bologne.
Il y a effectivement un avis assez catégorique d'André Le Chapelain, qui était le théoricien de l'amour courtois, et qui prétendait que les aveugles ne pouvaient pas tomber amoureux, comme on a cru que les muets ne pouvaient pas se marier puisqu'il fallait prononcer une phrase. C'est à ce point-là, c'est exceptionnel qu'on dise que l'absence de vue entraîne l'absence d'amour. Madame du Défant, qui était aveugle, est tombée amoureuse d'un ami anglais qui venait la voir, au timbre de sa voix, dit-on.
Et le cerveau a cette faculté d'ailleurs de pouvoir faire appel à d'autres sens.
Bien sûr, quand un sens devient déficient pour une maladie ou autre cause, effectivement le cerveau est capable de renforcer d'autres perceptions sensorielles parce qu'il faut qu'il s'en sorte, il faut qu'il continue à capter ce qui provient de l'extérieur évidemment.
Laetitia demande, le coup de foudre est-il toujours aussi puissant qu'on le dit, ce sentiment violent et parfois destructeur que nous disent les textes, Jean-Claude Bologne, à ce sujet?
Alors ce qui est intéressant, c'est que les très rares statistiques qu'on a pu faire, qui sont toujours sur du déclaratif, donc qui sont fragiles, sur l'entrée en amour, parlent de 13-15% de coups de foudre, de gens qui ont dit avoir ressenti le coup de foudre, et puis à peu près 50% qui parlent d'un déclic. Et un déclic, c'est une sorte de coup de foudre sans l'intensité. C'est quelque chose qui arrive subitement, mais qui n'a pas l'intensité. l'intensité du coup de foudre. Et puis 75% parlent de hasard. Et il y a quand même la surprise et le hasard qui entrent dans la composition du coup de foudre. Donc il y a des étapes, je dirais, dans le coup de foudre. Et l'intensité totale, ça reste quand même relativement minoritaire.
Ouais, Bernard Sablonnière.
Oui, la passion amoureuse n'est pas encore, bien sûr, complètement expliquée par les neurobiologistes. C'est tout un équilibre de neurones qui libère ces clés chimiques, dopamine, qui peut être régulée par un inhibiteur, par un frein qu'on appelle le GABA. Joue aussi la sérotonine qui va un peu calmer l'ardeur de la passion amoureuse. Et effectivement, c'est éminemment variable chez les uns les autres, parce que faut pas oublier que pour capter ces clés chimiques dans le cerveau, on a des petites serrures, des récepteurs. Ouais. Et ces récepteurs fonctionnent pas chez tout le monde de la même façon. Donc on est tous inégaux par rapport à la perception de ces comportements, par rapport à leur déroulé plus ou moins intense, dans l'efficacité, dans la durée.
Mais alors ça dure combien de temps un coup de foudre au fond, par rapport à ce qu'on peut appeler la passion amoureuse justement? On a une idée là-dessus, c'est juste cette instantanéité au fond?
Normalement c'est effectivement très rapide.
C'est l'éclair quoi, vraiment.
C'est l'éclair parce que il y a vraiment un pulse de libération de dopamine dans la région antérieure, notamment au niveau du cortex préfrontal. Et donc c'est extrêmement rapide parce que très vite il faut pouvoir rompre ce stress et déclencher l'attachement. C'est important de déclencher l'attachement dans la suite du coup de foudre, donc notamment chez l'homme.
Ouais. Donc l'ocytocine et avant ça, donc la sérotonine qui baisse.
La sérotonine qui va réguler un peu l'action de la noradrénaline et de la dopamine. Et ensuite, l'ocytocine qui est vraiment l'hormone de l'attachement, qui va calmer, entraîner la confiance en l'autre, notamment dans la rencontre amoureuse.
Les choses sérieuses vont commencer.
Notamment chez l'homme.
Oui. Jean-Claude Bologne.
Oui, alors dans la définition du coup de foudre, il y a l'immédiateté qui est de tous les récits, de tous les témoignages. Donc par définition, le coup de foudre est immédiat. Ce qui serait intéressant, mais les statistiques encore une fois sont fragiles là-dessus, c'est de voir la durée de la relation. Commencer par un coup de foudre.
Post-coup de foudre. Il y a des éléments là-dessus ou pas?
Il y a de petits éléments.
Alors,
la seule étude un peu complète, c'est de Marie-Noëlle Schumann, c'est les années 90. Elle a fait une enquête à partir d'un groupe déclaratif qui ont dit avoir le coup de foudre, et la moyenne de durée de relation était de 6 ans et demi. Quand on dit qu'après il y a 3 ans pour la relation amoureuse normale, je dis que c'est pas mal pour le coup de foudre.
C'est pas si mal. Bernard Sablonnière, d'autres études scientifiques à ce sujet?
Oui, tout à fait. J'ai regardé ça récemment. C'est intéressant parce que effectivement, un certain nombre de scientifiques disaient que ça durait quelques années, ce qui permet à l'homme de démarrer, enfin dans le couple, de démarrer une grossesse pour la femme, et que l'homme reste avec sa compagne pour s'occuper des enfants, au moins les premières années. Alors ça, c'est une explication biologique assez globale. Mais récemment, grâce à la magnétoencéphalographie, en gros, c'est une encéphalographie sophistiquée.
Oui, merci.
On vous met le crâne sur la tête avec plein d'électrodes, on enregistre ce qui se passe. Et les chercheurs montrent que chez certains, la dopamine agit surtout sur le circuit du désir-plaisir, donc vers l'avant du cerveau. Et là, ça ne dure qu'un temps et ça finit par s'épuiser. Et chez d'autres, dans le même temps, ça se projette plutôt vers les régions postérieures, vers le lobe temporal, vers le cerveau des émotions. Et là, ça déclenche un attachement durable. Et ce qui fait que dans un certain nombre de couples, ça peut durer des années. On a à la fois les phases de passion amoureuse et la phase d'attachement qui dure longtemps.
Jean-Claude Bonin, est-ce que dans vos textes, vous avez des individus singuliers qui auraient vécu, pour un même couple, plusieurs coups de foudre à intervalles réguliers ou à distance en tout cas?
Bien sûr, André Breton a connu 3 coups de foudre absolument fulgurants.
Oui, mais pas avec les mêmes personnes.
Avec les mêmes personnes, non. Ah, ça, je n'ai pas.
Alors c'est ça ma question.
Je n'ai pas d'exemple avec la même personne. Dans la mesure où il y a quand même une composante surprise dans le coup de foudre, je pense qu'on pourrait parler de passion à intervalles réguliers, mais de coups de foudre successifs avec les mêmes personnes.
Quel dommage, ce serait formidable de pouvoir réenclencher de temps en temps le petit coup de foudre. Je suis tombé, nous dit Nadia, 3 fois amoureux. Et ce, dès la première seconde pour les 3 personnes. Est-ce que ce sont des coups de foudre, demande-t-elle?
Si c'est perçu
comme... Tout dépend de l'intensité.
Voilà, si c'est perçu comme tel, le coup de foudre dans son appellation, dans son interprétation, je dirais même dans sa mentalisation, c'est-à-dire la façon dont le cerveau envoie les images dans le champ de conscience. Ça aussi, c'est tout un champ qui est étudié en imagerie fonctionnelle. C'est encore très complexe, mais c'est évidemment très variable d'un individu à un autre. Ça dépend de son éducation. Ça dépend aussi de la relation mère-enfant, comment elle s'est construite, parce que ça joue beaucoup sur la maturité du cerveau, des émotions pendant l'enfance, pendant l'adolescence, jusqu'au moment du premier coup de foudre chez le futur adulte.
Jean-Claude Bologne.
Oui, je reste persuadé qu'on tombe amoureux de la façon dont notre culture conçoit l'amour et conçoit le coup de foudre en l'occurrence. Si vous croyez par exemple aux âmes sœurs qui ont été mariées au paradis, qui doivent se retrouver sur Terre, nécessairement il n'y a qu'un seul coup de foudre dans la vie, et tant qu'on n'a pas rencontré la personne idéale, on n'a pas vécu.
Cette idée, oui, des âmes sœurs, les jumeaux astro, hein, aussi.
Les jumeaux astro, etc. Donc il y a toute une sorte une série d'explications paranormales qui font que le coup de foudre serait unique. Bien entendu, si vous pensez que une chimie du cerveau entre en cause est en cause et que on peut la reproduire plusieurs fois, ben il y a les exemples célèbres, Jean Breton, il y a Édith Piaf, mais toi t'es le premier, mais toi t'es le dernier. Oui, il y a plusieurs coups de foudre à ce moment-là.
Allez, on parle de science et on laisse un peu le paranormal de côté avec nos invités dans un instant. Vos messages, franceinter.fr, pour parler du coup de foudre. Singane.
La tête carrée sur France Inter.
Jean-Claude Bologne et Bernard Sablonnière ensemble pour nous parler du coup de foudre cet après-midi avec les messages des auditeurs qui arrivent. Thibaut, il nous dit ceci, j'ai vécu un jour un coup de foudre pour une femme, comme dans n'importe quelle relation, j'étais dans un état de stress au début, mais ce sentiment ne s'est pas atténué avec le temps, j'étais très impressionné justement par cette relation, c'en est devenu ingérable, j'ai donc dû rompre, est-ce que ça arrive souvent ? Jean-Claude Bologne, les témoignages, même chose dans vos documents écrits.
De rupture par excès d'amour, si l'amour est partagé, je n'en vois pas, s'il n'est pas partagé, malheureusement.
Bon, Bernard Sablonnière, si la chimie est trop forte, est-ce qu'on peut en arriver jusqu'à préférer finalement stopper la relation ?
Ça peut arriver, effectivement, des dysfonctionnements du circuit désir-plaisir à un point tel que c'est plus supportable par l'individu qui le vit.
Thierry demande, le coup de foudre, est-ce qu'il pourrait être lié à des pulsions sexuelles visant simplement à la reproduction humaine ?
Alors en fait non, la neurobiologie montre que la petite partie du cerveau qui est activée lorsqu'on a un désir sexuel, c'est l'hypothalamus. Alors que dans le coup de foudre, c'est le striatum, un groupe de noyaux qui est pas au même endroit et c'est pas tout à fait les mêmes circuits quand même, même si les uns interfèrent avec les autres.
Et qu'est-ce qui se passe avec le striatum alors exactement ?
Ben, le striatum, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette petite partie du cerveau qui a la taille d'un morceau de sucre et qui va libérer des quantités très importantes de dopamine pour donner cette motivation, cette vigueur à entrer en relation avec l'autre.
Jean-Claude Bologne, il y a la réminiscence qui est très importante aussi dans ce phénomène du coup de foudre avec finalement cette impression qu'on connaît l'autre par cœur. Vous parliez de jumeaux tout à l'heure, il y a ça effectivement qui joue.
Voilà, il y a une connaissance intuitive, on imagine connaître tout de l'autre en un instant, c'est encore ce regard qui est le miroir de l'âme et donc on pénètre jusqu'à l'âme, jusqu'à au profondeur de l'âme de l'autre. Alors c'est une théorie qui effectivement revient périodiquement depuis les réminiscences de Platon, à condition de croire à la réincarnation des âmes dans des corps.
Le ressouvenir.
Au ressouvenir de Platon, l'anamnésis de Platon. Ce sont des théories qui ont eu une certaine importance dans le coup de foudre mystique, je dirais. On se connaît depuis avant sa naissance. Et qui ont été un petit peu rationalisées. Là, il y a deux étapes pour moi importantes. La cristallisation de Stendhal. Le phénomène, vous vous rappelez, si on met un rameau dans une mine de sel, un rameau mort dans une mine de sel, bientôt on va voir des cristaux apparaître. Et Stendhal dit, c'est un peu comme ça l'amour. On imagine tellement les vertus de l'autre qu'elles vont enrober la réalité de l'autre et on va être amoureux de ces cristaux plutôt que du rameau. Or, le coup de foudre vient rompre cette durée d'entrer en amour. Et que dit Stendhal ? Il dit, mais dans le cas du coup de foudre, nous avons en nous un modèle idéal intérieur et ce modèle idéal va se cristalliser immédiatement. La deuxième cristallisation va se faire au moment de la rencontre. Mmh. Et c'est sur cette théorie qui court tout le 19e siècle qu'on va avoir toutes les théories psychanalytiques. Freud disait, mais il n'y a pas de trouvailles, il n'y a que des retrouvailles.
Donc c'est l'inconscient, en fond.
Donc il y a un modèle inconscient qui se serait fondé sur des souvenirs d'enfance, de prime enfance, voire intra-utérin, et le rapport de privilégié qu'on a avec la mère ressurgit au moment de l'adolescence avec une jeune fille, ou l'inverse entre un père et un amant. Donc il y a toute une série de théories qui essaient d'expliquer que l'amour arrive immédiatement parce qu'il y a en fait un long passé qui l'a préparé.
Allez, dernière illustration justement choisie par Céline Hila pour ce dossier coup de foudre, extrait du film Big Fish de Tim Burton.
On dit que lorsqu'on rencontre l'amour de sa vie, le temps s'arrête. Eh bien, c'est vrai. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que quand le temps reprend son cours, il file à une vitesse folle pour attraper son retard.
Voilà Big Fish dans ce dossier coup de foudre dans la tête au carré. Bernard Sablonnière, il y a quelque chose qui est très très joli dont vous parlez dans vos écrits justement. C'est une synchronisation au fond des ondes cérébrales. C'est ce qui se passe entre deux amoureux.
Alors, il semble, il y a beaucoup de travaux à l'heure actuelle. Bon, on sait qu'il y a une synchronie comportementale parce qu'on est bien l'un l'autre. On envoie un désir à l'autre. on récupère du plaisir et vice-versa. Donc il y a d'abord une synchronie comportementale. Après, on sait qu'il y a une synchronie dans la perception des émotions. On a tous les deux le cœur qui bat, on pense à l'autre tout le temps, on perd l'appétit, on n'endort plus. Ouais. Ça se passe des deux côtés. Et maintenant, l'étape, c'est d'essayer d'aller voir dans le cerveau...
Si les neurones aussi seraient capables de synchroniser.
C'est-à-dire que vous savez qu'il existe des neurones miroirs. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un manger un sandwich, vous avez faim, vous imaginez en train d'en manger un vous-même. Dans l'amour, c'est pareil. Et on commence à comprendre avec l'électroencéphalographie haute résolution, donc très sophistiquée, que lorsque on émet un désir vers le partenaire, il y a un rythme alpha qui se déroule dans la fréquence de résonance des neurones. Et quand on perçoit la récompense, le plaisir de l'autre, eh bien on passe dans un rythme d'oscillation gamma. Et on s'est aperçu que chez deux personnes qui exprimaient une forte émotion pour leur partenaire, ça se passait comme ça des deux côtés. Donc il y a une véritable synchronie maintenant, quasi cérébrale, et il y a beaucoup d'études qui commencent à le démontrer de façon précise.
Ouais. Et cette synchronie justement s'estompe avec la dilution de la relation ou pas ?
Ah, forcément, puisque il y a plus cette espèce de phasage. Qui assure ce comportement d'attachement qui devient très très fort. Donc ça peut se diluer, bien sûr.
Voilà, donc la science a des choses très précises à nous dire. Hein, elle qui a cherché tout au long des temps à donner des significations précises au coup de foudre. Jean-Claude Bologne, histoire du coup de foudre au travers justement de tous ces documents écrits et de ces personnages qui ont marqué l'histoire. Ce livre vient de paraître aux éditions Albin Michel. Et puis Bernard Sablenière, Les nouveaux territoires du cerveau, publié chez Odile Jacob, tout comme votre précédent ouvrage, La chimie des sentiments, qui vient de paraître toujours chez Odile Jacob, en poche.
La science grand format, en partenariat avec France 5.
Et c'est notre rendez-vous du mercredi, cette science grand format, ce soir à partir de 20h45, les dossiers Bigfoot. Thierry Minot, vous êtes avec nous pour en parler. Bonjour.
Oui, bonjour Mathieu.
Vous travaillez à l'unité documentaire de France 5. Alors, qui sont ces drôles de Bigfoot qu'on va découvrir ce soir, Thierry ?
Ce sont de drôles de personnages, d'animaux. Alors, le Bigfoot, on le connaît plus, on le connaît tous, et plus certainement le Yeti au Népal. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il en existe aussi dans d'autres pays du monde, comme le Sasquatch aux États-Unis ou l'Almaty en Russie. Alors, ce soir, notre enquête se déroule dans la région du Caucase, et là-bas, la légende raconte que vers 1850, une femme sauvage prénommée Zana ait été capturée, et qu'à cause de son apparence physique, on a affirmé qu'il s'agissait d'un descendant de Néandertal qui aurait survécu. Pour en avoir le cœur net et pour connaître le pourcentage des gènes néandertaliens de Zana, Brian Sachs, qui est professeur et généticien à l'université d'Oxford, va analyser l'ADN de plusieurs de ses descendants et étudier l'anatomie du crâne de l'un de ses fils qui a été conservé.
Eh bien justement, on va écouter un extrait du documentaire diffusé ce soir.
Le génome de l'homme de Néandertal n'a été identifié qu'en 2010. Et il réservait une belle surprise au monde scientifique. Nous avons tous en nous un peu de cet ADN. Ce qui signifie que l'homme de Néandertal et l'homme de Cro-Magnon se sont métissés.
La formation surprenante que nous avons découverte grâce à cette séquence est que chez les Européens et les Asiatiques, entre 2 et 4% de l'ADN est l'héritage direct de l'homme de Néandertal par croisement.
Si Zana était une Néandertalienne, alors ses descendants devraient présenter un pourcentage bien supérieur à 4%.
Alors Thierry Minot, quel est le rôle de la science, au fond, pour tenter d'y voir plus clair entre les légendes et la réalité ?
Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que grâce justement à l'analyse d'échantillons, la science s'intéresse à ces mystères et tente de les expliquer en apportant des preuves plus tangibles. Comme le dit le présentateur du documentaire, Mark Evans, le but de ces enquêtes que l'on va suivre ce soir n'est bien entendu pas d'attraper un Bigfoot, mais de pouvoir utiliser les avancées technologiques pour répondre à des questions et bien entendu essayer d'y voir un petit peu plus clair, comme vous le disiez Mathieu, entre le mythe et la réalité.
Voilà, donc on va analyser des poils quand même, prélevés sur certains échantillons, c'est ce qu'on verra dans le film ?
Exactement, en fait, l'Almaty en Russie est apparu à plusieurs endroits. Et il a été même filmé par trois jeunes Russes qui ont réussi a récupéré un certain nombre de poils et ils ont envoyé ces poils donc à Oxford auprès du professeur Sykes qui va les analyser et qui va nous dire si effectivement il s'agit de poils d'une créature particulière ou s'il s'agit de tout autre chose.
Bon, eh bien nous verrons donc ce soir peut-être si les Bigfoot existent un peu. En tous les cas, ce sera dans la science grand format sur France 5 avec ce film Dossier Bigfoot et ce sera comme tous les mercredis Thierry Minot à 20h45. Merci beaucoup d'être passé dans la tête au carré. Bonne semaine à vous Thierry.